Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Micro-Rebelle Hebdo, comme tous les vendredis de 18h à 19h sur microrebelle.fr et rediffusée sur Radio PFM 99.9 à Arras. Merci à vous. Micro-Rebelle propose chaque semaine un agenda social et culturel, une revue d'actualité et de presse, des infos sur les luttes, les événements dans le bassin minier ou dans le monde, à travers des interviews, des reportages, des chroniques et de la musique. Au programme de cette semaine, l'agenda, la chronique d'Aurélie, le communiqué d'un collectif local, aujourd'hui il y en aura deux, celui de l'association Au Secours 62 et celui de l'association Fraternité Rome 62. Le collectif Au Secours, qui a notamment contribué à la création du collectif Climat de la Rajoie et fait aussi partie du collectif qui se mobilise contre le projet Tropicalia près de Berck, est une association locale qui invite à repenser la gouvernance de la politique de l'eau à un niveau local, mais aussi à l'échelle nationale et européenne, et à refonder, sur la base d'une participation active, les processus de gestion de l'eau, c'est-à-dire sur la transparence et l'ouverture du processus décisionnel aux citoyens. On les remercie pour leur communiqué, que vous entendrez dans quelques instants. Il y aura donc la chronique sociale de Aurélie, la chronique de Lucien sur la Commune de Paris de 1871, et aujourd'hui, nous nous intéressons à la question de l'autogestion des entreprises et aux réquisitions. Ensuite, il y aura un reportage réalisé avec de jeunes mineurs isolés qui sont élèves au lycée Béal de Lens, réalisé par Luc. Et cette émission sera agrémentée de musique libre du compositeur et saxophoniste chilien Ed Neidhart pour accompagner le tout. Et tout de suite, l'agenda. Cet après-midi, vendredi 23 avril, a été un nouveau vendredi de la colère. Il y a eu de nombreux rassemblements et des appels à manifestation dans toute la France et notamment à Lille, dont les revendications étaient l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage et celle de l'APL, une prolongation de l'année blanche pour les intermittents et intermittentes du spectacle et des demandes d'une nouvelle convention indemnisant 100% des privés d'emploi et précaires. Bien d'autres revendications encore pour ce vendredi de la colère, où se réunissent les précaires, les travailleurs et travailleuses, les intermittents et intermittentes de l'emploi et du spectacle, et les laissés pour compte. Demain, samedi 24 avril, un rassemblement anti-éolien est prévu, le samedi 24 donc, devant la mairie d'Aumâtre, près d'Oisemont, dans la Somme, à 10h. Il est organisé par le comité contre les éoliennes du Vimeux. La date n'a pas été choisie par hasard, en effet elle coïncide avec la permanence du commissaire enquêteur. Cette mobilisation vise à dénoncer le projet de parc aérien, de parc éolien, prévu à Aumâtre et Frettecuisse. 6 machines doivent y être érigées. Si vous vous intéressez à l'indépendance et à l'autonomie alimentaire de toutes et tous, dimanche 25 avril a lieu une université populaire en ligne et en même temps une radio libre. Le média breton indépendant, le Canard Réfractaire, organise une deuxième session d'université populaire, cette fois-ci sur le thème de la sécurité sociale alimentaire. Avec comme invité Bernard Friot du réseau Salaria, Mathieu Dalmé de la Confédération Paysanne et Julien Ledem, éleveur, herbager et membre du collectif Terre de Liens Bretagne. L'événement a lieu sur Internet, sur la plateforme de salon vocal Discord. Vous n'avez pas besoin de télécharger l'application, mais seulement d'accéder à discord.com. Cherchez le canard réfractaire, acceptez la charte de participation et vous êtes dans le salon. Alors, je vous conseille effectivement cette université populaire dont la première session a été d'une grande richesse, très intéressante. Elle aura lieu à 16h et à partir de 19h, il y aura Radio Libre, vous pourrez prendre la parole. Le 1er mai, de nombreuses organisations appellent à fêter la fête du travail des travailleurs et des travailleuses. Alors rendez-vous dans la région, il y a un rassemblement intersyndical à 10h à Arras, et également à 10h devant la mairie d'Hénin-Beaumont à l'appel de Sud Collectivité Territoriale, à Lille, Pour l'heure, pas encore de précision, mais habituellement c'est au rond-point des postes, à 10h. Une chose que l'on attend beaucoup pour le 1er et le 2 mai, c'est le salon du livre de Colère du Présent. Alors, comment se sont-ils organisés et adaptés malgré les contraintes sanitaires ? Le collectif Colère du Présent est parvenu à trouver une organisation pour maintenir son événement. Il n'y aura donc pas un salon du livre, mais trois salons du livre. Un salon du livre papier, un salon du livre physique, au plus proche des habitants. En effet, les membres du collectif seront physiquement dispersés sur une dizaine de lieux à Arras et dans le bassin minier les 1er et 2 mai pour des impromptus au pied des immeubles et dans les cages d'escalier. Et il y aura également un salon du livre en ligne avec des événements fort intéressants, même radiophoniquement, car pendant 2 jours, il y aura du direct avec des retransmissions, d'événements aussi intéressants que des lectures, des discussions autour du roman noir, autour de l'ubérisation du travail, des interventions zoomorphes de Cyril Casmez, et également des concerts de HK et Trotsky Nautique. Des expositions sont visibles dans les rues également, avec des photos sur argile de Frédéric Di Marco disposées dans les creux d'Arras, des photos de Claire Fassulo sur les murs, des photos de Patrick Devresse sur les grilles de différents édifices de la ville, qui nous invitent à la balade. Il y aura également une proposition de balade dans nos déchets avec Lucie Taïeb pour son Fresh Kills aux éditions de la Contre-Allée. Dernière date de cet agenda, l'usine de Douvrin, la Française de mécanique, annonce une journée de grève le jeudi 6 mai. Après la manifestation pour l'emploi, très suivie la semaine dernière, le groupe PSA confirme que le futur moteur EB Gen 3 sera produit à Douvrin, sur le site de la Française de mécanique. Bien, mais peut mieux faire, répondent les syndicats de l'usine. Ils attendent un nouveau signe de la direction. En effet, pour comprendre un peu mieux ce qui se joue pour l'avenir de cette usine, je vous invite à écouter l'interview de Régis Chenart, ouvrier à PSA Douvrin, militant CGT, au sujet de la délocalisation d'une partie de la production et des suppressions de postes annoncées. C'était dans Micro Rebelle Hebdo de la semaine passée, vendredi 16 avril, que vous pouvez écouter en streaming ou télécharger sur micro-rebelle.fr. C'est fini pour l'agenda. À présent, nous vous proposons d'écouter la chronique hebdomadaire de Aurélie.
Merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un article paru dans Politis cette semaine et qui s'intitule « La finance complice des crimes de Total ». L'entreprise Total a annoncé vouloir opter pour une nouvelle résolution verte concernant le climat. Le 28 mai se tiendra normalement l'Assemblée Générale de Total, qui, comme le rappelle l'article, est le plus gros pollueur du CAC 40. Quoi de neuf ? A priori, Patrick Pouyanné, à la tête du groupe, semble vouloir reconquérir les actionnaires, notamment en leur proposant une neutralité carbone d'ici 2050. Pour autant, les ambitions de Patrick Pouyanné ne sont pas si vertes que l'on le pense. Pas question pour cela de réduire sa production d'hydrocarbures, il s'agirait même de l'intensifier. C'est l'image publique de l'entreprise qui entre en jeu, il s'agit de donner une bonne image de Total, bien souvent montré du doigt pour être un gros pollueur qui engendre un chaos social, climatique et environnemental. Il s'agit aussi de remettre Total dans la course et de lui donner le statut de bon élève, tandis que ses concurrents ne cherchent pas à participer à la transition écologique. Or, si certains se plaisent à croire que Total porte un réel intérêt à l'écologie, les chiffres, eux, ne mentent pas. En effet, le mix de Total est composé à 99,7% de pétrole et de gaz selon l'article, et Total ne prévoit pas de diminuer sa production d'hydrocarbures. Des mesures que l'on pourrait considérer comme presque superficielles ont bien été prises, comme par exemple la réduction de l'intensité carbone des barils d'environ 20% entre 2015 et 2030. Toutefois, les objectifs annoncés par l'entreprise restent assez flous. On ne sait pas, peut-être, dans l'espoir d'eux. Une rhétorique bien rodée qui laisse penser que rien n'est certain chez Total. Comment les actionnaires qui se disent engagés pour le climat peuvent-ils accepter et voter une stratégie d'expansion des énergies fossiles au même moment où, précisément, il faudrait diminuer la production mondiale de pétrole et de gaz de 4% et 3% chaque année? Pourquoi les actionnaires font-ils encore semblant de croire au beau discours de Total et ne crient pas au scandale à la lecture de la résolution climat qui sera présentée à l'Assemblée Générale, peut-on lire dans l'article? Parce que oui, Total n'est pas blanc comme neige. Même si l'entreprise annonce vouloir s'impliquer plus dans l'énergie verte, que doit-on alors penser des projets de forage en Arctique, de l'ouverture de nouvelles réserves pétrolières et la destruction de nombreux villages en Afrique de l'Est, notamment pour la construction de l'oléoduc et à Cap. Nous pouvons penser qu'il s'agit pour Pouyanné d'imposer sa propre résolution climat, histoire de faire patienter les actionnaires qui sont vraiment engagés dans la lutte pour le climat et qui attendent plus de sa part. Peut-être peut-on espérer mieux de Total, avec des chiffres précis, des objectifs clairs, auxquels se tenir sur les années à venir. Nous pouvons également douter de la bonne foi des actionnaires, qui pour le moment ne semblent pas s'opposer à cette supercherie. Jusqu'où les actionnaires sont engagés dans le changement? Peut-on réellement être engagé dans la transition écologique en étant actionnaire dans l'entreprise la plus polluante du CAC 40? À méditer.
Eh bien, merci beaucoup Aurélie. Et maintenant, il est temps d'écouter la revue de presse de Elsa.
Bonjour tout le monde. Cette semaine, dans la revue de presse et d'actualité, je vous propose d'aborder différents sujets que l'on retrouve dans le journal Politis et sur les sites internet de France 24, du Monde, de Vie publique, de Mediapart, de la CIMAD et de l'AFP. On parlera des mesures sanitaires dans les écoles, de l'armement des policiers-policières en civil dans les lieux publics et pour terminer, du délit de solidarité. On avait interviewé le 7 avril Dominique Dauchaud, professeur en SECPA dans un collège de Larageois et syndiqué au SNUIPP 62, à propos des conditions d'enseignement à distance et des moyens donnés aux établissements scolaires en termes de protection sanitaire en vue du retour des élèves en cours. Vous trouverez son interview sur le site internet de Micro Rebelle. L'hebdomadaire Politis y consacre également un article dans son numéro 1647 du 1er au 7 avril écrit par Oriane Mollaré avec les témoignages d'enseignants et enseignantes et d'un assistant d'éducation. Leur retour semble faire écho à la réalité vécue dans de nombreux établissements scolaires. Des cas de Covid non déclarés, l'absence de tests, la non-fermeture de classe alors qu'il y a des cas positifs avérés, le faible nombre de points d'eau par rapport au nombre d'élèves, des locaux non compatibles à la distanciation sociale et à l'aération. Dans le cas des écoles primaires, de nombreuses enseignantes et enseignants ont demandé à recevoir des masques transparents car le masque complique l'apprentissage de la lecture et de la phonologie. Ces appels sont restés sans réponse. Et pour autant, certaines de ces professionnels de l'éducation ne voient pas la solution dans la fermeture des établissements scolaires, mais dans des moyens matériels et humains alloués à ces derniers, notamment un test pratiqué aux élèves et des masques chirurgicaux distribués gratuitement et en nombre suffisant, à savoir deux par jour, aux professeurs et élèves. La détresse psychologique chez les jeunes se faisant de plus en plus importante, des personnels de collèges et lycées réclament également plus d'assistants-assistantes d'éducation, d'assistants-assistantes sociales et de psychologues scolaires. À présent, petit point sur la loi de sécurité globale. Jeudi 18 mars, le Sénat a adopté l'article 25 qui stipule que les forces de l'ordre, policiers, policières et gendarmes, peuvent porter une arme en dehors de leur service dans les lieux accueillant du public. Le port d'armes en civil leur était déjà autorisé depuis 2016, s'il et elle en faisaient la demande à leur hiérarchie. C'est pourquoi nombre de policiers, policières rentrent chez elles et eux avec leurs armes de service. C'est le cas de 30 000 agents agentes, nous apprend le site France 24, dans un article publié en ligne le 19 mars par Aude Mazoué. La particularité de cet article de loi voté le mois dernier est que désormais, les directions de lieux recevant du public, les ERP, comme les musées, les théâtres, les cinémas, les centres commerciaux ou encore les écoles, ne pourront pas s'y opposer. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, parle sur Twitter de protection fonctionnelle en audition libre pour les policiers et les gendarmes. Les parlementaires d'opposition s'inquiètent du danger que cela peut représenter. Décider de porter une arme n'est pas anodin, a fait valoir Laurent Lafon, sénateur centriste du Val-de-Marne. D'abord pour les policiers et les gendarmes eux-mêmes, mais aussi pour les autres. Quel sentiment éprouvons-nous si dans une salle de spectacle, nous voyons à côté de nous une personne en civil qui porte une arme ? Est-ce que vous vous sentez rassuré ? Ou est-ce que vous vous sentez inquiet ? Ou encore Guy Benaroche du groupe écologiste qui craint une idéologie de course à l'armement. Du côté des directions et responsables d'établissements recevant du public, l'inquiétude se fait également sentir. Quant à Anne-Sophie Saint-Père, chargée de plaidoyer à Amnesty International, dans un entretien accordé à France 24, elle estime que toutes les mesures visant à étendre le port d'armes sont autant de régressions. Elle se demande justement, dans le cadre d'un endroit avec possibilité de boire de l'alcool, comme les salles de concert ou les festivals par exemple, que se passerait-il si l'un d'entre eux venait à boire en possession de son arme ? Adopté conforme par les deux chambres en première lecture, l'article 25 ne pourra plus être modifié en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. On peut effectivement se poser la question des risques encourus, de comment nous sentirions-nous en voyant une personne portant une arme dans un concert, dans un magasin ou dans une crèche. Comment être sûr d'une part que c'est bien un ou une représentante des forces de l'ordre, et même si c'était le cas, on ne peut s'empêcher d'imaginer des balles perdues ou de penser aux meurtres commis par des policiers et policières de personnes désarmées. Je vous renvoie à la revue de presse de Roxane de la semaine dernière sur ce sujet. La solidarité n'est pas un délit. Jeudi 22 avril, de nombreuses associations de soutien aux personnes migrantes et étrangères, comme la CIMAD ou Tous Migrants, étaient présentes devant le tribunal de Gap pour soutenir les deux maraudeurs interpellés le 19 novembre 2020 au col de Montgenèvre, à la frontière italienne dans les Hautes-Alpes. Ils étaient poursuivis et jugés pour aide à l'entrée en France de personnes en situation irrégulière. La CIMAD nous apprend que ces deux maraudeurs ont simplement aidé une famille d'Afghans en difficulté du côté français. Bien qu'il n'y a eu aucune preuve avancée qu'ils aient traversé la frontière, le procureur a requis 2 mois de prison avec sursis et 5 ans d'interdiction de séjour dans les Hautes-Alpes. Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 27 mai. Ce même jour, le 27 mai prochain, a lieu le procès en appel à Grenoble des 7 de Briançon. Ces militants-militantes solidaires ont été condamnés en première instance le 13 décembre 2018 à des peines allant jusqu'à 4 mois de prison ferme et 8 mois avec sursis pour avoir participé le 22 avril 2018 à une manifestation antifasciste. Cette manifestation spontanée visait à dénoncer l'action du groupe fasciste Génération Identitaire, présent la veille au col de l'Échelle, à la frontière italienne dans les Hautes-Alpes, ainsi que la militarisation de la frontière qui met des vies en danger. Le parquet reprochait aux 7 militants âgés de 22 à 52 ans d'avoir facilité, le 22 avril 2018 donc, l'entrée en France d'une vingtaine de migrants mêlés aux manifestants-manifestantes en forçant un barrage dressé par les forces de l'ordre. Partie de Clavière, en Italie, la manifestation s'était achevée à Briançon. Les 3 plus 4 de Briançon, poursuivis de 2018, sont au nombre de 11 en 2021. Face à cette course à la répression des personnes venant en aide aux migrants-migrantes, des élus écologistes, dont Damien Carême et Guillaume Gontard, ont signé le 20 avril une tribune dans Le Monde pour demander au gouvernement français de cesser ces pratiques indignes. Il y aurait des migrants dangereux. Il y aurait des personnes solidaires complices. Il y aurait un flot d'arrivées massives, écrivent-ils. Et la seule solution serait de rejeter, humilier, édifier des murs. C'est un mensonge. Les personnes solidaires ne sont pas des coupables. Ils et elles ne sont pas dehors la loi. La Cour de cassation de Lyon l'a confirmé le 31 mars en relaxant définitivement Cédric Héroux. La solidarité n'est pas un délit. Fin de citation. On se souvient en effet de la longue procédure judiciaire pour ce paysan militant solidaire de la vallée de la Roya, qui avait été poursuivi en 2016 pour aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'étrangers en France. Il lui était alors reproché d'avoir convoyé des migrants venus d'Italie et organisé un camp d'accueil. Depuis 5 ans, Cédric Héroux a dû se rendre plusieurs fois devant les tribunaux. D'après l'AFP, il avait été condamné à une amende en première instance, puis à 4 mois de prison en appel en 2017. À l'occasion d'un premier passage devant la Cour de cassation, cet agriculteur solidaire et un autre militant, s'estimant victime d'un délit de solidarité, avaient saisi le Conseil constitutionnel. Cette démarche avait abouti en juillet 2018 à une décision historique de ce dernier, le Conseil constitutionnel, qui consacrait la valeur constitutionnelle du principe de fraternité et considérait qu'il en découlait la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national. Dans un article de Julia Pacual, publié sur le site du Monde le 6 juillet 2018, suite à cette décision du Conseil constitutionnel, on peut lire que ce principe de fraternité prévoit d'exempter de poursuite l'aide au séjour lorsqu'elle n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte. Sans préciser cependant la nature de la contrepartie. Le Code précise en revanche les domaines auxquels cette aide au séjour doit se limiter, à savoir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de l'étranger irrégulier. Or, cette formulation peut exclure de multiples formes de solidarité. Et les associations et militants-militantes considèrent que persiste ainsi un délit de solidarité. D'ailleurs, quelle est l'origine de ce délit de solidarité? Sur le site de Vie publique, on apprend que l'infraction d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un migrant trouve son origine dans le décret-loi du 2 mai 1938 sur la police des étrangers, dont l'exposé des motifs rappelle l'objectif « sanctionner toutes les officines louches, tous les individus qui, gravitant autour des étrangers indésirables, font un trafic honteux de fausses pièces, de faux passeports ». Il cible donc les réseaux organisés, passeurs, transporteurs, employeurs, qui profitent à des fins lucratives de la détresse des migrants. L'article 4 dispose que tout individu, par aide directe ou indirecte, aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger sera passible d'une peine d'emprisonnement d'1 mois à 1 an. Le délit de solidarité n'a pas d'existence juridique. L'expression est apparue en 1995 à l'initiative du groupe d'information et de soutien des immigrés, le GISTI. Elle désigne le risque pour les militants et militantes des associations d'aide aux immigrés ou pour les particuliers de se voir mis en examen et condamné pour aide au séjour irrégulier, au même titre que les organisateurs de filières d'immigration clandestine. Alors, qu'en est-il de cette solidarité dans le Nord-Pas-de-Calais aujourd'hui? Dans un article de Nejma Brahim pour Mediapart, publié le 13 avril dernier, on fait la connaissance du collectif citoyen Migraction 59, qui permet, depuis 2018, à des exilés de Calais d'être hébergés en famille le temps d'un week-end, à Calais, dans la métropole lilloise, dans le bassin minier, à Boulogne-sur-Mer, Dunkerque ou Saint-Omer, par solidarité régionale. Des personnes solidaires du 62 et du 59 accueillent du samedi matin au lundi matin des migrants-migrantes pour une pause au chaud avec de la bienveillance, une douche, des bons repas et des moments d'échange partagés. Les dons reçus par l'association permettent d'acheter du matériel et des vêtements dont ces invités de passage peuvent bénéficier avant de repartir à Calais.
C'était la revue de presse de Elsa. Et maintenant, nous relayons une communication du collectif Au Secours 62 Pas-de-Calais, une association locale qui invite à repenser la gouvernance de la politique de l'eau à un niveau local, mais aussi à l'échelle nationale et européenne, et à refonder, sur la base d'une participation active, les processus de gestion de l'eau, c'est-à-dire sur la transparence et l'ouverture du processus décisionnel aux citoyens. En France, ce sont les communautés, d'agglomérations ou de communes, ou bien urbaines, qui ont en charge la gestion de l'eau et de l'assainissement, c'est-à-dire la production d'eau potable, sa distribution, la récupération des eaux usées et leur traitement, ainsi que l'établissement du tarif pour les usagers. Cette gestion, mise en place par les dirigeants de l'agglomération, peut se faire en régie publique ou par l'intermédiaire d'une multinationale, Veolia, Suez ou Sor. On comprend donc que les travaux réalisés où le prix au mètre cube sont différents d'un territoire à l'autre, il n'y a pas d'harmonisation, par exemple des tarifs. La communauté d'agglomération de Lens-Liévin fournit l'eau dans ses 36 communes pour les 106 000 abonnés possédant un compteur, et en direction des 245 000 habitants. Depuis de longues années, les dirigeants successifs ont délégué ce service à la multinationale, appelée initialement Générale des Eaux, Vivendi, puis Veolia. Actuellement, Veolia se cache derrière le logo « Eau de l'Artois », sans doute parce que son image de marque s'est altérée au fil du temps. Voyez vos factures d'eau. Vous n'y trouverez plus le logo de Veolia. Et pourtant, c'est bien elle. Trois contrats ont été signés par les dirigeants de la CAL avec la multinationale, un contrat de production d'eau, un contrat pour la distribution de l'eau et une autre pour la collecte et l'assainissement des eaux usées, ainsi que pour l'assainissement individuel. Veolia a aussi été chargée de la facturation et du recouvrement des factures. D'où provient l'eau du robinet ? L'eau de notre secteur est tirée essentiellement des nappes phréatiques grâce à 23 captages. Mais comme ces nappes sont mal protégées, à cause des anciennes galeries minières, 11 captages ont été fermés ces dernières années pour cause de pollution. Nous n'avons donc pas assez d'eau dans notre sous-sol pour les besoins de nos 36 communes. De ce fait, plus du quart de l'eau nécessaire vient de l'extérieur, 3,5 millions de mètres cubes par an sur les 12 millions nécessaires. Elle est acheminée, depuis une usine de traitement de l'eau de la rivière Lys, près d'Air-sur-la-Lys, par une abduction de 30 km qui aboutit dans les environs de Grenay. Cette usine de potabilisation de l'eau de la Lys fournit aussi une grande partie de l'eau de la métropole lilloise, et les risques de pénurie à moyen terme sur nos secteurs sont bien réels. Pour respecter l'écosystème des rivières, le prélèvement d'eau doit suivre des normes liées à l'étiage de la rivière. En été, lorsque les populations ont besoin d'un surplus d'eau, le niveau de la rivière est plus bas et les prélèvements sont réduits. Dans les prochains bulletins, nous pourrons aborder des questions comme la facture d'eau, la fixation du prix, la qualité de l'eau, les bénéfices de Veolia, l'agence de l'eau. Des questions peuvent nous être posées par l'intermédiaire de Micro-Rebelle ou à l'aide de notre site internet www.eausecours62.org, eau écrit E-A-U, ou bien contact@eausecours62.org. Vous écoutez toujours Micro-Rebelle Hebdo, tous les vendredis de 18h à 19h. Et maintenant, nous vous proposons d'écouter le communiqué de l'association Fraternité Rome du Pas-de-Calais. Depuis 10 ans, notre association apporte de l'aide à des familles roumaines, serbes ou monténégrines qui ont trouvé refuge sur le territoire de l'ex-bassin minier Lensois. Il faut rappeler que ces familles trouvent rarement un accompagnement officiel qui leur permette de se construire un avenir ordinaire dans les pays où ils tentent de s'installer. Depuis un an et le premier confinement lié à la Covid, les contraintes sanitaires et leurs conséquences, interdiction totale ou partielle de déplacement, arrêt de certaines activités commerciales, industrielles et des particuliers les ont privés, plus ou moins fortement, de leurs ressources habituelles. Depuis octobre 2020, les familles ne reçoivent quasiment plus aucune aide officielle pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Même les aides d'associations humanitaires sont devenues plus difficilement accessibles. Quant aux démarches administratives, le travail en distanciel les a rendues impossibles sans l'aide d'une personne maîtrisant la langue française et disposant des moyens informatiques nécessaires. Alors que les rigueurs de ces débuts de printemps se manifestent encore, des expulsions se produisent toujours à la demande des bailleurs sociaux, qui préfèrent voir leur logement parfois désaffecté, inhabité, plutôt que d'abriter des familles sans toit. Heureusement, les militants de notre association reçoivent l'aide de quelques habitants, demeurant à proximité des logements occupés par les familles. De l'aide provient aussi de quelques associations et organismes implantés localement, avec le concours parfois de municipalités bienveillantes. Ensemble, ils apportent une aide matérielle, nourriture, vêtements, etc., et administrative, pour permettre aux familles d'accéder à leurs droits, scolarisation des enfants, soins essentiels, demande de titres divers aussi. Nous reviendrons bientôt sur quelques actions ou situations particulières complétant la présentation de ce jour. Vous pouvez retrouver des informations sur le collectif Fraternité Rome sur leur site internet Rome avec deux R et au pluriel .bassinminier62.org.
Web radio indépendante du bassin minier, micro-rebelle, média local alternatif, solidaire quoi.
Et à présent, je vous propose d'écouter la chronique de Lucien.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Micro-rebelle dans le cadre de notre chronique Vive la Commune, chaque semaine jusque fin mai, à l'occasion des 150 ans de la Commune de Paris. Aujourd'hui, sixième opus. Et nous nous intéressons à la question de l'autogestion des entreprises. Nous vous proposons les thématiques suivantes. Premièrement, la réquisition des entreprises. Deuxièmement, l'exemple des ateliers du Louvre. Troisièmement, la réquisition des ateliers des grands monopoleurs. Quatrièmement, l'exemple de l'imprimerie nationale. Et enfin, cinquièmement, quelques enseignements pour nos luttes du XXIe siècle. Pour cette émission, nous nous appuyons sur les sources suivantes. Le numéro spécial de Les Utopiques de l'Union syndicale solidaire, numéro intitulé « La Commune de Paris, mémoire, horizon » et notamment l'article de André-Clément Découfflé, article titré « Réquisition, autogestion ». Ensuite, le dossier de Alternative Libertaire, intitulé « L'espoir meurtri de la Commune de Paris ». Et enfin, le livre « La Commune au jour le jour » qui compile les textes officiels de la Commune de Paris, texte rassemblé par Patrick Le Tréonda et Christian Mailleux. Et on va justement commencer par évoquer la réquisition des entreprises au travers d'un texte officiel. Il s'agit du décret du 16 avril 1871, connu sous le nom de décret des biens vacants.
Considérant qu'une quantité d'ateliers ont été abandonnés par ceux qui les dirigeaient afin d'échapper aux obligations civiques et sans tenir compte des intérêts des travailleurs, considérant que par suite de ce lâche abandon, de nombreux travaux essentiels à la vie communale se trouvent interrompus, l'existence des travailleurs compromise, la Commune de Paris décrète. Les chambres syndicales ouvrières sont convoquées à l'effet d'instituer une commission d'enquête ayant pour but, premièrement, de dresser une statistique des ateliers abandonnés, ainsi qu'un inventaire exact de l'état dans lequel il se trouve et des instruments de travail qu'il renferme. Deuxièmement, de présenter un rapport établissant les conditions pratiques de la prompte mise en exploitation de ces ateliers, non plus par les déserteurs qui les ont abandonnés, mais par l'association coopérative des travailleurs qui y étaient employés. Troisièmement, d'élaborer un projet de constitution de ces sociétés coopératives ouvrières. Quatrièmement, de constituer un jury arbitral qui devra statuer au retour des dix patrons sur les conditions de la cession définitive des ateliers aux sociétés ouvrières et sur la quotité de l'indemnité qu'auront à payer les sociétés aux patrons. Cette commission d'enquête devra adresser son rapport à la Commission communale du travail et de l'échange, qui sera tenue de présenter à la commune, dans le plus bref délai, le projet de décret donnant satisfaction aux intérêts de la commune et des travailleurs.
On le voit, ce décret comporte essentiellement des mesures préparatoires à une réquisition ultérieure des seuls ateliers abandonnés, institution d'une commission d'enquête chargée de dresser une statistique de ces ateliers, ainsi qu'un inventaire exact de l'état dans lequel ils se trouvent et des instruments de travail qu'ils renferment. Définition des conditions de leur prompte mise en exploitation par des sociétés coopératives ouvrières constituées à cet effet lorsqu'elles ne préexisteront pas dans telle ou telle branche d'industrie. Un jury arbitral statuera au retour des patrons sur les conditions de la cession définitive des ateliers aux sociétés ouvrières et sur la quotité de l'indemnité qu'auront à payer les sociétés aux patrons. Et concernant les suites de ce décret, qu'en est-il ?
Les résultats effectifs du décret du 16 avril sont malaisés à évaluer dans l'incertitude des sources. L'historien Jacques Rougerie recense une dizaine d'ateliers confisqués, ceux d'abord qui intéressaient la défense militaire, la réparation d'armes, la fabrication de cartouches et d'obus.
On va maintenant prendre appui sur l'une de ces entreprises réquisitionnées.
L'un de ces ateliers, celui du Louvre, est doté dans les premiers jours de mai d'une organisation que la terminologie moderne qualifierait d'autogestion. Organisation dont le règlement est soumis à l'approbation de la Commune de Paris par les ouvriers de l'atelier du Louvre et publié au journal officiel du 21 mai. Placé sous la direction d'un délégué près de la Commune, lui-même nommé par les ouvriers réunis et révocable chaque fois qu'il sera convaincu d'avoir failli à son devoir, il est administré par un conseil ouvrier. Ce conseil ouvrier est composé du délégué à la direction, du chef d'atelier, des chefs de banc, ces chefs étant eux aussi élus et révocables par l'Assemblée des ouvriers, et d'un ouvrier par chaque banc nommé à l'élection. Le conseil se réunit quotidiennement pour délibérer sur les opérations du lendemain ainsi que sur les rapports et les propositions faites par l'un ou l'autre de ses membres. Il est à la fois, au terme du règlement, conseil de direction et conseil de surveillance, exerçant de ce dernier point de vue une fonction spécifiquement révolutionnaire. Dans le but de sauvegarder les intérêts de la commune, les délégués formant conseil de surveillance, précise l'article 11, auront droit de prendre connaissance de toutes les opérations intérieures et extérieures. Et, sur leur demande, les livres devront leur être présentés chaque fois qu'ils le jugeront nécessaire. L'embauche et le licenciement des ouvriers sont soumis à la décision du conseil. Le règlement fixe aussi la durée de la journée de travail, qui est de 10 heures, et les appointements des délégués et le prix de la journée des ouvriers.
On le voit, la place des ouvriers dans les délibérations et dans l'élection des délégués est réelle et s'apparente effectivement à ce qu'aujourd'hui on appelle l'autogestion. Cependant, dès le 10 mai, soit 7 jours après l'application du règlement d'autogestion aux ateliers du Louvre, un communard indique que les ateliers du Louvre sont, je cite, à leur troisième directeur élu et ils ne font rien. Il y a plus significatif. Les entreprises de quelque importance ne sont guère touchées par le décret de réquisition.
Plusieurs communards, par exemple Cluseret le 23 avril ou encore Chalin le 4 mai, ne sont pas écoutés quand ils évoquent devant l'Assemblée de la Commune la réquisition des grands ateliers Kail. « Je propose, avait en vain déclaré Chalin, que l'on prenne les ateliers Kail pour fabriquer tout ce dont nous avons besoin. » Il y a plusieurs raisons à la réserve du pouvoir communaliste à l'égard de ces ateliers. La première de ces raisons, c'est que le milieu ouvrier aux usines Kail était neuf, peu intégré encore aux traditions révolutionnaires parisiennes. La deuxième raison était que l'action des rares militants internationaux de l'usine dont Chalin faisait partie était encore dispersée. Et enfin, troisième raison, l'habileté de la direction de Kail qui accepte que l'usine travaille quelque peu pour le compte de la commune.
Ainsi, le décret de réquisition du 16 avril est bien l'œuvre de militants ouvriers traditionnels employés dans la petite industrie. Ils ne visent que les petits patrons qu'un réflexe de sauvegarde a fait fuir à Versailles avec leur argent. Ils ne visent pas les grandes entreprises, ils ne visent pas les grands patrons que l'on appelait les grands monopoleurs.
Le 4 mai, Vésinier disposera cependant sur le bureau de l'Assemblée un de ces projets fracassants dont il était ça et là l'auteur, celui d'un décret de réquisition des ateliers des grands monopoleurs. Décret décidant, premièrement, la réquisition après inventaire et indemnité ultérieure fixée par des experts de tous les grands ateliers des monopoleurs, de leurs outils, machines, matières premières, agencements de locaux, etc. Deuxièmement, la cession provisoire de ces ateliers aux associations ouvrières qui en feront la demande. Troisièmement, l'adjudication des fournitures de la commune à ces associations ouvrières. Et quatrièmement, l'ouverture d'un crédit nécessaire à ces associations. Le projet ne sera même pas discuté, peut-être par la maladresse commise par Vésinier lui-même, en le proposant au beau milieu d'un débat animé sur une autre question, celle de l'attribution aux associations ouvrières de tailleurs des marchés d'habillement de la garde nationale.
Un dernier exemple maintenant, toujours pour évoquer la question de l'autogestion des entreprises sous la commune. C'est l'exemple de l'imprimerie nationale, évoqué par Prosper Olivier Ligasaray. Ligasaray est un journaliste socialiste républicain qui a rallié la commune dès le premier jour. Il en a raconté les 72 jours dans un livre témoignage, Histoire de la commune de 1871. Voici son évocation de l'imprimerie nationale.
Tout le personnel fut conservé, à l'exception du directeur, du sous-directeur, du sous-prot, du chef des travaux qui était cordialement détesté pour ses brutalités et ses injustices. Ils firent courir le bruit que le comité central n'avait pas d'argent et que les ouvriers ne seraient pas payés. À la fin de mars, sur l'injonction de Versailles, tous les employés et les chefs de service, à l'exception d'un très petit nombre, abandonnèrent l'imprimerie après avoir touché leurs appointements. Le nouveau directeur en profita pour faire nommer les chefs d'atelier par les ouvriers. Les places de conducteurs de presse furent mises au concours. L'administration en charge de l'affichage, mettant des entraves à l'affichage des décrets et proclamations, De Bock conseilla aux ouvriers afficheurs de s'associer. Ils le firent, leur salaire s'accrut de 25% et l'imprimerie réalisa une économie de 200 francs par jour. Les gros traitements furent réduits de beaucoup, ceux des petits employés et des ouvriers augmentés.
Voilà, en guise de conclusion évidemment provisoire, quels aspects peut-on retenir de ces questions d'autogestion des entreprises sous la commune pour nos luttes actuelles, pour nos perspectives ? La question centrale, c'est bien sûr la question de la propriété. Propriété des entreprises, propriété des moyens de production. Une question sur laquelle, on l'a vu, la commune a été quelque peu timide. Par exemple, un jury arbitral devait statuer sur la cession des ateliers aux associations ouvrières et sur le dédommagement à verser au patron. Cette question de la propriété des moyens de production est centrale dans la perspective d'une société débarrassée du capitalisme. Les moyens de production et d'échange sont une propriété sociale, un bien commun de toute la société. Ils doivent être placés sous la responsabilité des travailleurs qui les mettent en œuvre dans le cadre de leur activité de production et sous la responsabilité des usagers. On le voit, cette perspective nous éloigne tout à fait d'une propriété privée aux seules mains des patrons et des actionnaires. Voilà, cette sixième émission « Vive la commune » se termine. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un septième opus. Dans l'attente, bonne semaine à toutes et à tous. Portez-vous bien, bye bye.
Nous venons d'écouter la chronique à deux voix de Lucien et Nadine sur la commune et plus particulièrement aujourd'hui sur l'autogestion des entreprises. Et maintenant, une petite pause musicale avec le morceau Stone Flow du compositeur et saxophoniste Ed Neidhart. Thank you. C'était le morceau Stone Flow du compositeur et saxophoniste Ed Neidhart. Vous écoutez toujours Micro Rebelle Hebdo et maintenant, on souhaite vous parler de voyage, de déracinement et d'exil au travers de portraits de plusieurs élèves de FLE, enseignement du français à destination des locuteurs de langue étrangère, du lycée Béal de Lens.
Je m'appelle Delwar Hussain.
Je m'appelle Hamid. Je viens d'Afghanistan. J'ai 18 ans. Je m'appelle Pelakish.
C'est après cousine.
Je m'appelle Bilal. Je suis afghan. J'ai 17 ans.
Bonjour, je m'appelle Mohamed Reza. Je suis 17 ans. Je suis Bangladesh. Afghan.
Je parle bengali.
Je m'appelle Moussa. Je me présente. Je suis malien.
Je m'appelle Kamal,
je suis. Je m'appelle Shahin, je viens d'Irak, j'ai 17 ans. Et je vais venir
ici en France à Bilulumine. Et je vais ici au lycée Bihal. Après la matinée, au lycée Robespierre. Je travaille à mécanique.
Je m'appelle Sherif, je viens d'Afrique.
Et j'ai quitté ma pays, pour moi est trop difficile, trop triste, parce que j'aime bien ma pays. C'est Ningrar, c'est ma ville, c'est mon village, il s'appelle Issarak.
Mon environnement, mon les amis, ouais. Jusqu'à maintenant, moi tu penses, mon pays, comment tu joues avec mon, les amis. Mon pays, moi tu viens à Guinée-Conakry avec mon oncle.
À Bangladesh, partait du Moussou Biapa. Du Moussou Biapa, oui.
C'est ce soir, j'embrasse ma mère. Ouais, elle était un peu stressée. Ouais, comme ces choses. C'est vraiment un peu l'été spécial pour moi.
Maman, c'est le très triste. J'ai quitté l'Afghanistan.
Comme je peux toi, j'ai quitté dans ma paix. J'ai pas dit à quoi dans ma mère. C'est pas ça, c'est très dur pour moi, tu vois. Parce que je manquais beaucoup. En fait, c'est ma mère, elle m'a dit, tu vois, tu peux pas venir dans les roses, ça, tu vois. Parce que moi, j'ai dit, je peux aller, tu vois. En fait, c'est dans mon papa aussi, il m'a dit, bah, tu peux aller, tu vois. Parce que moi, comme je peux venir les ce matin à 6h, tu vois. En fait, je pense que ma mère est dormie, tu vois. C'est comme ça, je suis parti à boire.
Dans mon sac, j'ai mis des pantalons.
C'est une pantalon, une t-shirt, après, je ne sais pas c'est quoi, c'est les trucs de manger parce que j'ai oublié, tu vois.
Un paire de baskets, voilà, avec mon nourriture, biscuit avec les fruits.
Quand je partais, je prends
mis dans mon sac. Sans papier, rien du tout.
Jeans.
Des manger comme doudou, chocolat, chips.
Fruit sec, dry fruit.
Mon vêtement,
aussi.
Mon chaussure,
ouais, c'est tout,
les boutons, l'eau, c'est tout.
Mon sac, c'est
des pantalons, des manteaux, t-shirt des baskets.
Pour manger, c'est la baguette, biscuits, pistache.
Et du pain. Autre quelque chose, c'est comme.
J'ai parti à l'Afghanistan, comme ça, mon sac.
Cascade, c'est tout.
Et biscuit. Tu connais biscuit, monsieur? La badame pour manger. Et c'est la déchette.
C'est ça que on met du bouchonde.
Chaussures, l'anglais chaussures, le français. Ah oui, chaussures. Alou ou water. Oui, c'est ça.
Papier, non? Pas papier.
Égalité, liberté, c'est ça. Azadi, Rochesti. Sur mon pays, il n'y a pas égalité, liberté parce que les filles, ils sont pas droit sortis. Qu'ils sont sortis, quelqu'un, un garçon, il va frapper, et son père, il va tuer, quelqu'un, il va prendre, et il y a des choses de problème. Il n'y a pas égalité. Azadi. Parce que toutes les personnes, c'est travail, c'est rien à faire de la guerre, c'est toutes les personnes, c'est rentrer à l'école, après pour rentrer chez moi.
Toujours, j'ai rappelé de la peine dans mon pays, parce que depuis en 2012, mon pays, il va mal, tu vois. Donc, depuis en 2012, dans mon pays, il était mal. Toujours, j'ai la rappelé de la paix. Tous les jours, en Abe, Jamana Tse Faramusoga, Densenim Faramokrovaka, Jamana Den, Ambela Jelengabo, Dakelenfe, Kado Dakelenfe, Nafa Bodela, Anga Sabalanga Muninokoro, parce que Jamana est Segena Anyana, Ninde Moloka Fawi.
Pour moi, là, je préparais un sola, il pashto sola, et prends-y la paix, parce que là-bas, il y a guerre.
Liberté. Non, Ami. Ami. Je t'aime, c'est ça, la Ami. Oui, c'est ça, Ami. Ta sœur, Mina, la Rome. C'est ça, la parole, puis je t'aime.
Je t'aime. Mina, ta sœur, la Rome. J'aime bien les filles, tu vois. Parce que, comme ça, j'aime bien les sept mots.
Ça, Bengali, c'est mon favori. Ma fausse mère, la maman. Bengali, ma.
Ouais, c'est liberté. Ouais, I like this word. It sounds nice. Tu connais liberté? En français, liberté, l'enfer. L'enfer is like. Si ça, alors il y a ni kuma mani kakando. Nindi nara kuma mani kakando. Tu sais kafui famu. Mbina kuma koni, tu sais kafui famu. Moi, j'aime parler mon langue, mais si c'est moi qui parle, toi, tu comprends pas.
Avant, je disais bon appétit. Maintenant, je vous dis aussi bon appétit. C'est très spécial. Il n'y a pas beaucoup de langues. Tu peux dire bon appétit.
Ouais.
Nushijan. Tu peux dire Nushijan. C'est même définition.
Entendre la première partie des portraits réalisés par Luc avec les élèves du lycée Béal de Lens. Vous pouvez retrouver l'ensemble des entretiens réalisés avec eux sur notre site micro-rebelle.fr. Micro Rebelle Hebdo est terminé pour aujourd'hui. Vous retrouverez les entretiens sur notre site internet www.micro-rebelle.fr. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de l'actualité sociale et des reportages. Et on se quitte en musique, toujours avec Ed Neidhart et cette fois-ci, le morceau Mang Taimi.